Bienvenue dans ce nouvel épisode du vocabulaire économique et financier. Aujourd'hui, nous allons parler de la récession. La récession, c'est quand votre voisin perd son emploi. La dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. Analysez avec humour l'ancien président des États-Unis, Harry Truman. La récession est une phase inéluctable des cycles économiques. Et lorsqu'elle dure trop longtemps et devient particulièrement intense, il est alors question de dépression. Mais comment apparaît-elle ? Quels sont les facteurs qui la favorisent ? Et quelles en sont les conséquences ? Sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle période de récession ? Marianne, pour commencer, qu'est-ce que la récession ?
La récession économique est un affaiblissement passager du taux de croissance d'un pays. L'INSEE l'a défini comme une période de baisse temporaire de l'activité économique avec un recul du PIB sur au moins 2 trimestres consécutifs. Une récession peut conduire à une dépression dès lors que la baisse de la production et de la consommation est forte et durable, comme la Grande Dépression des années 30 qui avait duré 4 ans et au cours de laquelle le PIB avait perdu un tiers de sa valeur.
Comment apparaît-elle ?
La récession fait partie des 4 phases des cycles économiques. En effet, l'activité économique fluctue entre des périodes d'expansion, de crise, de récession et de reprise. L'expansion économique, tout d'abord, c'est la phase de prospérité, avec une augmentation de la production, des salaires, de la consommation et des investissements, ainsi qu'un taux de chômage faible. Les crises interviennent généralement au cours de cette période faste. Elles peuvent avoir plusieurs origines. L'éclatement d'une bulle spéculative, financière ou immobilière, le surendettement des ménages ou encore l'inflation. C'est alors le retournement économique et le début de la phase de récession où tous les facteurs économiques sont ralentis après avoir été au sommet. Si cette période de récession dure dans le temps et s'intensifie, on parle alors de dépression. Puis, à la suite de mesures de relance ou à la reprise du marché, c'est le cycle de la relance économique qui recommence. Le PIB revient à une valeur positive, la consommation augmente, les investissements redémarrent et le chômage baisse. Elle marque l'entrée dans une nouvelle période d'expansion et le début d'un nouveau cycle économique.
Quelles sont les principales phases de récession que nous avons connues ?
Les économies mondiales ont connu plusieurs phases de récession avec des éléments déclencheurs différents. Le plus marquant est la Grande Dépression de 1929 qui trouve son origine dans le krach boursier de Wall Street. La production industrielle américaine avait diminué de moitié et le chômage augmenté de 3 à 24%. Cette crise économique s'est étendue au monde entier. Depuis, les organismes de contrôle, des banques centrales ou FMI veillent à limiter les impacts des récessions. Pour autant, le monde est de nouveau entré en phase de récession à la suite du choc pétrolier de 1973. Avec une hausse de 70% de cette matière première, la production mondiale s'était effondrée. Puis, en 1993, avec une récession qui trouve son origine dans la dévaluation des monnaies européennes, avec la sortie du Royaume-Uni et de l'Italie du système monétaire européen, mais aussi au retournement du marché immobilier. La plus importante du XXIe siècle est la récession de 2009. Elle fait suite à la crise des subprimes et qui a été aggravée avec la chute de Lehman Brothers. Dans ce contexte, un effondrement du commerce international s'est transformé en crise économique et en récession mondiale. Et enfin, plus récemment, la récession de 2020 qui s'explique par la crise sanitaire du Covid-19 et ses confinements. Les restrictions, l'isolement, l'arrêt des activités ont engendré une chute de la consommation, de la production, le recul des investissements et le recul des échanges mondiaux.
Quelles sont les conséquences globales des récessions ?
Les récessions installent un climat d'instabilité et d'incertitude qui a de nombreuses conséquences négatives sur l'ensemble des acteurs économiques. Tout d'abord, les entreprises sont les plus impactées puisqu'elles doivent s'adapter à ce ralentissement économique et réduire leur production. Les plus petites entreprises, face à ce changement brutal, font faillite, ce qui entraîne des suppressions d'emplois et le chômage. Les grandes entreprises, elles vont pouvoir mieux résister en réduisant leurs coûts, en limitant les embauches et en diminuant les investissements. Sur le marché financier, la perte de confiance des investisseurs et l'anticipation d'une baisse des bénéfices ou encore le besoin de cash entraînent une vente massive des titres et des conséquences sur leur valorisation boursière et sur la valorisation des entreprises. Les dettes des États s'intensifient pour financer des plans de relance, ce qui creuse alors les déficits publics. Enfin, en cette période anxiogène, les ménages consomment moins. Ils continuent à dépenser pour les achats de première nécessité, mais reportent leurs décisions d'achat, réduisant leurs loisirs et en épargnant davantage. C'est donc un cercle vicieux. Moins de consommation, baisse de la production et des investissements, moins d'emplois, donc plus de chômage.
Existe-t-il des moyens pour limiter les effets d'une récession ?
Deux théories économiques s'opposent, les libéraux et les keynésiens. Pour les premiers, le marché va lui-même corriger la récession. L'intervention de l'État n'est pas nécessaire puisque c'est un cycle économique qui doit être accepté. Il s'associe à de la destruction créatrice, c'est-à-dire que les entreprises les plus faibles et moins concurrentielles vont disparaître et laisser place à de nouvelles. À l'inverse, pour les keynésiens, l'intervention de l'État est indispensable pour faire face à une période de récession. Afin de stimuler l'économie, le gouvernement peut mettre en place des programmes d'aide et de relance aux entreprises pour créer des emplois. Il peut aussi réduire les impôts et taxes pour augmenter le pouvoir d'achat des ménages et ainsi encourager la consommation et donc la reprise économique.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les prévisions de croissance mondiale sont toutes revues à la baisse. Aux États-Unis, en Chine comme en zone euro, plusieurs facteurs font aujourd'hui craindre une récession au niveau mondial en 2023. Tout d'abord, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine engendre une hausse du coût des matières premières pour les entreprises, ce qui fait diminuer la production. L'inflation est aussi un facteur aggravant, puisque, pour la limiter, les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt et ainsi ralentissent les investissements. Enfin, la crise en Chine, liée à la politique zéro Covid, crée des ralentissements de production et des ruptures d'approvisionnement, augmentant là aussi les coûts pour les entreprises. Dans la zone euro, trois voies très différentes sont envisagées face à ces sombres perspectives. La première est portée par ceux, relativistes, qui ne croient pas à une récession durable. On y trouve notamment la France. Plusieurs arguments viennent appuyer leurs projections. De puissantes mesures de soutien financier prises par les gouvernements, une politique de resserrement des taux accommodante et progressive de la BCE, un taux d'épargne élevé des ménages hérité de la période Covid, un marché de l'emploi dynamique. Et s'oppose à cette vision ceux qui estiment une récession certaine. Pour ses partisans, les arguments sont nombreux. La hausse significative et rapide des taux américains, la flambée générale du prix des matières premières, le ralentissement global du moteur chinois, particulièrement immobilier, les perturbations du commerce liées à la crise en Ukraine et l'inflation notable. Et puis, restent les partisans d'une récession nécessaire, voire désirable. C'est le camp des États libéraux, Angleterre et États-Unis en tête. Leur gouvernement considère la récession comme le seul instrument efficace pour casser l'inflation. D'où la froide exigence de laisser faire le marché, sans aucune intervention budgétaire publique, et alors même que leur banque centrale resserre l'accès au crédit. Cette politique vise à casser la demande et la consommation nette, car elles sont les initiateurs de la surchauffe actuelle, quitte à en payer le prix sur le plan social. Un taux de chômage élevé est, selon eux, le meilleur antidote aux tensions salariales actuelles, elles-mêmes facteurs de l'inflation. En conclusion, le policy mix de la zone euro reflète les différentes stratégies de lutte contre une récession. D'un côté, une politique budgétaire généreuse et grévant de déficits toujours plus abyssaux. De l'autre, une politique monétaire des banques centrales de moins en moins accommodante au travers d'une remontée du loyer de l'argent. Vaut-il mieux apaiser la colère sociale au prix d'une inflation persistante ou bien casser brutalement les tensions sur les prix par une politique sociale douloureuse ? Mais avec, pour corollaire, une perspective de reprise économique plus rapide. La question n'est donc plus de savoir si la récession va arriver, elle est plutôt de savoir quel chemin de sortie sera choisi.